La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
This bizarre real-life movie continues.
Au cœur du sport et du récit qu'on en fait, il y a presque toujours un même ressort, celui de la rivalité.
La plupart du temps, cette rivalité ne dépasse pas le cadre de la compétition, de la piste, du stade, de la patinoire.
Mais parfois, la tension sort du cadre, elle explose et cristallise alors un puissant récit médiatique.
C'est l'histoire de Tonya Harding et de Nancy Kerrigan, patineuses américaines qui ont brillé sur la glace des années 90, icônes du sport devenues icônes de la pop culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Épisode consacré donc au patinage artistique, à l'histoire de Nancy Kerrigan et Tonya Harding, mais pas seulement. Nous allons nous intéresser à d'autres patineuses qui concouraient aux Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer en 1994, génération dorée du patinage artistique. C'est la dernière compétition de l'Allemande Katharina Witt. Il y a les Américaines Kerrigan et Harding. Il y a la Française Souria Bonaly. Il y a l'Ukrainienne Oksana Bayou, qui remporte cette année-là la médaille d'or.
Et pour en parler avec nous, Gilles Goudgeber. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Sport et Vie. Et quand il s'agit de raconter des histoires et de parler de sport, vous êtes un peu, on va le dire, notre maître à tous. Hein. C'est votre grande spécialité et on aimerait vous faire écouter ceci. C'est le reportage qui clôture la finale du patinage artistique aux Jeux Olympiques de Lillehammer. On écoute.
Minutes éblouissantes mais aussi dramatiques, Tonya Harding a décidément le don d'attirer les catastrophes. D'emblée, son triple loot s'est raté. Que se passe-t-il ? Elle hésite, elle perd complètement le fil de ses idées. Et puis, avec des larmes et des petits soubresauts très hollywoodiens, elle s'en va expliquer au juge que le lacet de son patin droit est cassé. Autorisation lui sera accordée de tout recommencer plus tard, pour terminer finalement 8e du concours. Autre détresse, celle de Souria Bonaly qui n'a pu obtenir la médaille qu'elle recherchait. Pas question de mettre les juges en cause, c'est Souria qui est demeurée paralysée par l'enjeu. Elle termine à la plus mauvaise place, la 4e. Et dans une ambiance évidemment acquise à sa cause, Nancy Kerrigan a offert 4 minutes de patinage d'une grâce infinie. Très belle impression chorégraphique, mais petite compression des difficultés. Nancy Kerrigan, médaille d'argent. Car il restait en effet les 16 ans un peu canailles de l'Ukrainienne Oksana Bayoul. Avec ses talents de comédienne, avec ses déhanchements de meneuse de revue, le petit canard a aussi et surtout imposé une grande démonstration d'audace et de virtuosité. Oksana Bayoul, médaille d'or et triomphe mérité.
Gilles Goudgeber, c'est quand même particulier le patinage artistique. On qualifie les sportifs de petits canards, on commente leurs déhanchés. Je vous ai épargné le commentaire sur Nancy Kerrigan qui a un physique de crayon à maquillage. c'est quand même très particulier comme sport.
Bon, mais le texte était travaillé. Hein. Il faut rendre hommage à Franck Baudon qui commentait toujours avec des expressions fleuries. C'est vrai que cette finale, elle est incroyable à tout point de vue. Bon, l'histoire de Tonya Harding avec son lacet cassé. Il y a l'histoire d'Oksana Bayoul elle-même qui, à l'échauffement, avait heurté une autre patineuse allemande dont j'ai oublié le nom. Vous savez, donc à l'échauffement, ils sont tous sur la glace en même temps et ils patinent en arrière à des grandes vitesses. Et là, il se trouve que les deux tournaient dans des sens opposés et elles se sont vues au dernier moment. Malheureusement, elles ont voulu éviter la chute. Elles l'ont évité toutes les deux du même côté. Donc, elles se sont heurtées. Et Oksana Bayoul n'était pas tout à fait en pleine possession de ses moyens lors de cette fameuse prestation qui lui a valu la médaille d'or. Et du coup, j'ai regardé, moi, en préparant l'émission, j'ai été revoir chacune des prestations. Oksana Bayoul, c'est vrai, elle est craquante, elle est tellement fragile, on comprend pourquoi elle a gagné. Nancy Kerrigan, elle est parfaite comme toujours, mais Tonya Harding fait une jolie prestation. Elle, franchement, elle termine 8e, alors que quand on la voit sur la glace et à la fin de son patin, elle a l'air plutôt heureuse de ce qu'elle vient de montrer.
Allez, on replonge dans nos archives à Lillehammer en 1994.
February 25, 1994. Les haut-parleurs résonnent dans l'amphithéâtre olympique de Hamar, en Norvège. Tonya Harding, championne des États-Unis de patinage artistique, est attendue sur la glace. C'est la dernière épreuve de ces Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer. Et malgré qu'elle soit mal partie, classée 10e après le programme court, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, mais elle n'arrive pas. Dans les gradins, les spectateurs ne comprennent pas. Est-on en train d'assister à un nouveau rebondissement, un nouveau scandale autour de la patineuse ?
This is backstage, and Tonya Harding, after the warm-up, had a problem with her laces.
Les caméras de la télévision américaine sont braquées dans les vestiaires. Sur les images, on voit la jeune femme, sa tresse serrée qui descend du haut de son crâne vers la nuque, la tête et tout le corps enserrés dans une combinaison grenat, penchée vers ses patins. Et plus précisément, penchée vers les lacets de ses patins. Autour d'elle, tout le monde s'affaire.
Her father, Al, is here. He is bewildered by what has happened to his daughter.
Il y a de toute évidence un problème. Le commentateur prononce cette phrase énigmatique.
This bizarre real life movie continues.
Ce film bizarre et pourtant réel continue. Et c'est exactement ça qu'il se passe depuis quelques semaines. La vie réelle de Tonya Harding ressemble à un film bizarre. Et maintenant qu'elle est là, à Lillehammer, que ce moment qu'elle a tellement attendu est sur le point d'advenir, les secondes avancent dans une indescriptible panique.
Si elle n'est pas là dans 45 secondes, je pense qu'ils vont la disqualifier. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais rien vu de tel, dans aucune compétition.
Le décompte s'égrène sur un grand panneau affiché au-dessus de la glace. Mais toujours pas de Tonya Harding.
Elle doit se dépêcher.
Puis tout à coup, une combinaison grenat, le décolleté piqué de sequins argentés, les volants de tulle sur les épaules, surgit. « Ça ne va pas me retenir !» crie Tonya Harding en se précipitant vers la glace. Peu importe les lacets et les problèmes d'équipement, peu importe la pression et ceux qui sifflent dans le public, elle y va. Parce que depuis plus de 20 ans, elle ne vit que pour ça. Sur la glace, elle ferme les yeux, serre la mâchoire, puis lève le bras en attendant que la musique démarre. À quoi pense Tonya Harding au moment où la mélodie inquiétante du film Jurassic Park démarre ? À tout ce gâchis ? Ses bras moulinent, ses jambes prennent de l'élan. Depuis ses 3 ans, elle a façonné ce corps pour qu'il l'amène ici et maintenant, pour ce rêve olympique, pour cette médaille d'or qui, un jour, a allumé une lumière dans sa tête de toute petite fille. Ce rêve qu'elle a poursuivi, pourchassé, là où toutes les autres auraient abandonné, elle a cru que c'était possible. Tonya Harding est née en 1970 à Portland. Fille d'une mère alcoolique et violente et d'un père absent, sœur d'un frère qui a voulu la violer, enfant, elle endure la vie des mobilhomes et des déménagements. En elle, il n'y a que cette lumière que le patinage artistique a allumée. Devant elle, il n'y a que ce rêve olympique qui puisse la faire tenir, avec la discipline qu'elle peut imposer à son corps. Plus les années avancent, plus elle s'en sort. En 1991, elle atteint la finale des championnats nationaux. À Minneapolis, les volants turquoises de sa jupette dansent sur ses cuisses et Tonya Harding est prête pour l'exploit physique.
Et la question est, il y a 3 figures dans le programme, est-ce qu'elle fera un triple axel ? Voici en premier le triple lutte.
L'amplitude et la puissance.
Maintenant la question est de savoir si elle sera la première américaine à tenter et à réussir un triple axel. On va savoir tout de suite si elle l'essaye ou pas.
Et Tonya Harding s'envole et tourbillonne 3 fois et demi sur elle-même.
Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito, has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! How terrific!
Tonya Harding exulte. Cette année-là, elle devient championne des États-Unis et se rapproche encore un peu plus de son rêve olympique. Pourtant, Tonya Harding ne correspond pas à l'image de la patineuse de ce début des années 90. Sa force, ce n'est pas la grâce. Ce ne sont pas les conventions qui demandent à ces jeunes femmes d'être à la fois des ballerines et des athlètes, d'être à la fois de grandes filles et de petites femmes. Tonya refuse souvent le strass, les paillettes, les sequins. Elle refuse Tchaïkovski et Bizet. Pour son programme libre, elle a plutôt choisi le rappeur américain Tone Loc. Tonya Harding, c'est une enfant qui boit de la bière, fume des cigarettes et vit avec un entourage toxique. Sa force, c'est son caractère et le triple axel. À Albertville, aux Jeux Olympiques d'hiver l'année suivante, elle est quatrième, derrière deux autres Américaines, Christy Yamaguchi, première, et Nancy Kerrigan, troisième. Il y a trop d'Américaines dans le patinage artistique. Mais devant elle, se profile de nouveaux Jeux d'hiver, en 1994, à Lillehammer. C'est une occasion en or. Christy Yamaguchi a arrêté sa carrière. La seule rivale est désormais Nancy Kerrigan. Pourtant, 1994 va être l'année de la chute de Tonya Harding. Une dégringolade qui ressemble à un mauvais film un peu bizarre, mais qui pourtant s'ancre bien dans la vie réelle. Nous sommes le 6 janvier 1994. La finale du championnat des États-Unis va avoir lieu et Nancy Kerrigan s'entraîne sur la glace d'une patinoire de Détroit. Ses longs cheveux bruns ramenés en arrière, son large sourire de dents bien alignées. Elle porte une robe blanche et deux perles blanches scintillent à ses oreilles. C'est l'entraînement, elle sort de piste, chausse ses protège-lames. Quelques secondes plus tard, elle est filmée, assise par terre, le visage tordu par la douleur. Nancy Kerrigan se tient le genou droit, sa jambe d'appui. Et elle hurle « Pourquoi ?» Une journaliste présente raconte ce qu'elle a vu.
Un type est arrivé depuis les stands là-bas, j'imagine, depuis ce couloir là derrière. Et il l'a frappé avec, je ne sais pas exactement, une barre en fer ou un club de golf.
Les caméras de la chaîne de télévision Intersport sont là et filment tout. La sécurité se lance à la poursuite de l'agresseur. Un type blanc avec une veste en cuir. Nancy Kerrigan, blessée, ne peut pas patiner lors du championnat qualificatif pour les Jeux Olympiques. Le lendemain, Tonya Harding remporte en tenue rouge vif et or le titre national. À un peu plus d'un mois de Lillehammer, la petite lumière dans sa tête n'a peut-être jamais été aussi vive. L'affaire éclate et fait la une dans le monde entier. La tenniswoman Monica Seles vient de se faire poignarder, alors l'histoire de Nancy Kerrigan résonne très fort.
Après Monica Seles, c'est la championne américaine de patinage Nancy Kerrigan qui a été agressée par un inconnu lors d'un entraînement. L'homme qui a pu prendre la fuite a frappé violemment Nancy Kerrigan à la jambe avec une barre de métal. La patineuse ne pourra pas participer au championnat des États-Unis ce week-end, mais on a appris ce soir qu'elle entamera un programme de remise en forme en vue des Jeux Olympiques de Lillehammer.
Rapidement, l'entourage de Tonya Harding est suspecté.
Nancy Kerrigan, blessée au genou par un individu qui fait peut-être partie de l'entourage de sa principale concurrente. Nancy Kerrigan, donc patineuse américaine, a repris l'entraînement. Elle pourra sans doute participer aux Jeux Olympiques à Lillehammer dans quelques semaines. L'enquête sur l'agression dont elle a été victime n'a cependant pas encore permis d'identifier le coupable.
Et les choses s'accélèrent très rapidement. Le FBI perquisitionne. Au centre de l'affaire, il y a deux hommes. L'ex-mari de Tonya Harding, Jeff Gillooly, redevenu son amant depuis quelques mois, et son garde du corps, un malabar du nom de Sean Eckhart, qui va finir par tout raconter dans une interview fleuve à la télévision américaine. Il raconte qu'il y a eu une rencontre entre lui et Jeff Gillooly. Une rencontre pour s'assurer que Tonya Harding serait qualifiée pour les Jeux Olympiques de Lillehammer.
Il m'a demandé si je pouvais lui faire rencontrer quelqu'un, le mettre en contact avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait faire en sorte que Nancy Kerrigan ne patine pas aux championnats nationaux.
Est-ce que quelqu'un a dit « nous devrions tuer Nancy Kerrigan »
Ça n'a pas été dit comme ça. Jeff a juste utilisé le terme « il faut que quelqu'un s'en charge ». J'ai dit qu'il y avait d'autres possibilités. J'ai dit qu'on pouvait lui casser une jambe.
Donc, vous étudiez les possibilités comme casser une jambe.
Il y a eu différentes idées qui sont sorties et il a été décidé de toucher sa jambe d'appui. Quelque chose qui ne serait pas permanent, dont on peut guérir.
Qui a décidé quelle jambe ?
Jeff a dit sa jambe d'appui.
Jeff Gillooly serait le cerveau de l'affaire. Un troisième homme aurait exécuté le plan. Tonya Harding, elle, nie être au courant de quoi que ce soit, mais la presse et les supporters n'en pensent pas moins. Le comité olympique menace de l'exclure de l'équipe olympique malgré sa victoire aux championnats nationaux.
Mais Tonya Harding proteste son innocence et menaçait le comité olympique américain de poursuites si elle n'était pas autorisée à se rendre en Norvège. La menace de 25 millions de dollars de dommages et intérêts aura fait fondre le comité olympique. Quant à sa concurrente Nancy Kerrigan, elle affirme être maintenant en pleine forme. Les parieurs américains ne restent pas de glace et la donnent gagnante, mais n'oublions pas, et c'est plus qu'un détail, qu'il s'agit avant tout de patiner artistiquement.
Nous sommes donc mi-février. Tonya Harding embarque pour la Norvège et Lillehammer. À l'entraînement, l'ambiance est électrique. Nancy Kerrigan et elle doivent s'entraîner ensemble. Ce jour-là, Nancy Kerrigan a décidé de porter sa robe blanche, celle du jour de l'agression. Elle aussi veut dire qu'elle n'abandonnera rien. Et après la première épreuve...
À Lillehammer, Nancy Kerrigan a réussi le sans faute dans l'épreuve technique de patinage artistique. Elle devance Oksana Bayul et Souria Bonali. Katharina Witt est sixième. Tonya Harding, elle, s'est classée dixième.
Tonya Harding s'effondre. Nancy Kerrigan est manifestement très en forme. Alors, deux jours plus tard, quand Tonya Harding surgit sur la glace, qu'il y a ce problème de lacet à son patin et que la musique de Jurassic Park résonne... Dans quel état est-elle ? À quoi pense-t-elle ? Elle est sans doute terriblement fébrile. Parce qu'après quelques secondes, au moment de lancer son premier saut, un triple lutz.
Triple lutz. She had problems with this in the technical program. Reaches back with the right foot. Single.
Le corps de Tonya Harding ne tourne qu'une seule fois en l'air, doucement. Pas d'amplitude, pas de vitesse.
She looked down at her skate. It looked like she was...
Tonya Harding regarde ses patins, décélère encore, puis baisse les bras. La musique s'interrompt et c'est le trop-plein. Dans son juste au corps grenat, le décolleté brodé d'argent, Tonya Harding s'effondre. Ses lèvres maquillées se tordent, ses sourcils se relèvent et son front prend le pli du chagrin. Ce visage est le premier qui apparaît quand on cherche aujourd'hui une photo de Tonya Harding. Le moment où la lumière dans sa tête s'est éteinte. La patineuse a pu recommencer son programme ce jour-là, mais elle a terminé à la 8e place. Quelques semaines plus tard, Tonya Harding a été condamnée par un tribunal de Portland à 100 000 euros d'amende et 3 ans de mise à l'épreuve pour complot pour entrave à la justice. La rivalité entre Nancy Kerrigan et Tonya Harding a longtemps été alimentée.
Si cela vous laisse de glace, sachez que Nancy Kerrigan vient de passer un contrat $1 million avec la chaîne de télévision ABC qui va produire un téléfilm sur la patineuse. Le contrat prévoit également la fabrication d'une poupée Nancy pour les enfants. La poupée Barbie n'a qu'à bien se tenir. Quant à la rivale de Nancy Kerrigan, Tonya Harding, elle a été contactée par Playboy qui lui propose un contrat de $250 000 pour des images, selon les termes pudiques de l'hebdomadaire, pour des images dont.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Gilles Guldguber, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si Tonya Harding a finalement été mêlée directement à cette affaire ? À l'époque, elle disait qu'elle ne savait pas. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on sait ça ?
Elle a été sanctionnée, donc on lui reconnaît une part de culpabilité. Mais cette culpabilité porte sur un faux témoignage. Donc, entrave à la justice, on le disait dans le reportage.
C'est sur des faits un peu connexes, en fait.
Voilà, donc elle n'a pas dit toute la vérité. Était-elle au courant ? Était-elle celle qui a fomenté le coup ? Là, encore aujourd'hui, il y a des grands points d'interrogation. Il y a un film qui a été tourné il y a peu de temps sur sa vie, I, Tonya, et le film lui-même ne se prononce pas.
Oui, elle a dit d'ailleurs dans les interviews à la sortie de ce film que peut-être qu'elle avait entendu des choses sans tout à fait se rendre compte. On ne sait pas au final quelle a été.
Il faut savoir aussi que à chaque fois qu'il y avait des déclarations de l'une sur l'autre, ce qui primait toujours, c'était l'amitié, la sympathie, le partage. Donc quand Nancy Kerrigan parlait de Tonya Harding ou l'inverse, on mettait toujours en avant leur présumée amitié. Oui, bien avant l'histoire. Mais on comprend par là que ce qui est affiché dans le sport ne reflète pas toujours ce qui est vécu à l'intérieur des sportifs.
Mais cette rivalité entre Tonya Harding et Nancy Kerrigan, c'est pas vrai alors. C'est une construction un peu
médiatique. Il y a eu de la construction, oui, c'est vrai. Notamment, on a beaucoup opposé le milieu quand même très pauvre d'où est issue Tonya Harding, qu'on appelle parfois white trash. C'est péjoratif, mais donc la poubelle blanche, on comprend que ce sont des familles pauvres qui très souvent habitent des logements vétustes ou parfois carrément dans des roulottes. Enfin bref,
ce qui est quand même un peu sa vie.
C'est sa vie, ça c'est vrai. Pour le coup, là, c'est vrai. Donc, elle est l'enfant d'une dame dont on fait un portrait terrible dans le film, mais qui devait l'être aussi dans la réalité. C'était son cinquième mari. Tonya est la fille du cinquième mari de cette femme qui était violente, dit-on, alcoolique, qui était aussi probablement... elle aspirait à une grande carrière pour sa fille. C'est elle qui lui cousait ses tenues pour ses performances sur la glace, qui ne plaisait pas d'ailleurs toujours aux jurés, qui eux étaient issus d'un autre milieu. Donc, pour ce qui concerne la vie de Tonya, ça semble quand même assez bien refléter la réalité. C'est surtout Nancy Kerrigan, dont on a fait une petite poupée de la classe moyenne.
Une princesse, gosse de riche, un peu.
Alors qu'en réalité, sa vie à elle n'était pas facile du tout. Sa mère était aveugle. Son père multipliait les petits boulots pour lui permettre de payer les cours de patinage de sa fille. Et notamment, une chose intéressante, il était celui qui passait à la surfaceuse. Donc vous voyez, dans les patinoires, de très souvent, il faut refaire la glace. Et bien lui pilotait cette espèce de grosse machine là pour refaire la glace où allait donc patiner sa fille. Ce sont quand même des histoires assez étonnantes. Et donc, toutes les deux, elles ont beaucoup de mérite. Elles avaient un sens aigu de la compétition.
Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y en a une qui a grandi dans une famille qui était plutôt toxique. Et l'autre qui a vécu dans une famille qui, certes, n'était pas aussi classe moyenne ou aussi riche qu'on a voulu le dire, mais qui était une famille aimante et soutenante.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu à l'image de leur vie, même post-carrière. La vie de Tonya Harding reste bien cabossée.
Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Écoutez, elle a fait tous les métiers. Il y a eu plusieurs documentaires sur elle et donc on apprend qu'elle a été vendeuse, soudeuse. Elle a eu une affaire sombre de sextape d'une nuit de noces qui est sortie, alors que c'est sans doute peut-être des histoires de chantage à la clé. Enfin, tout ça est assez mystérieux. Il y a eu là actuellement, elle est paysagiste. Elle s'occupe de son fils. Donc, il semblerait que aux dernières nouvelles, les choses se passent plutôt bien.
Je disais qu'elle avait été catcheuse aussi.
Elle a fait, oui, alors c'est ça. Elle a fait de la boxe anglaise. Ah oui. Et elle a fait du catch aussi. Mais donc, on lui organisait des combats. Il y a notamment un combat qui a eu de l'écho à l'époque parce qu'elle affrontait une des personnes qui accusait Bill Clinton. Enfin, vous voyez comment c'était très fabriqué au niveau médiatique. Et donc, on faisait mousser des pseudo-événements. Mais donc, oui, effectivement, elle s'est produite aussi. Elle a tourné dans un film qui n'a eu aucun succès. Enfin, elle a essayé toutes sortes de petits métiers.
Et cette vie un peu cabossée, le film dont vous parliez, est-ce qu'il réhabilite un peu son rôle ou même la manière dont médiatiquement on l'a présenté?
C'était quand même la méchante.
À l'époque, c'était...
On l'a présenté. Sur les 25 années après 1994, Tonya Harding, c'est l'image de la méchante fille.
Exactement. Mais je pense qu'on avait exagéré dans ce sens-là et que peut-être qu'on lui a fait porter un tas de culpabilités qu'elle ne méritait pas. Je me demande si le film ne fait pas l'excès inverse. C'est-à-dire que dans le film, elle apparaît... Bon, d'abord, elle est merveilleusement jolie. Elle est incarnée... Enfin, son personnage est incarné par Margot Robbie, qui est très, très belle. Et donc, je pense que Tonya Harding, d'ailleurs, est très fière d'avoir été représentée comme ça à l'écran. Et on montre à l'écran une patineuse qui est aux prises avec une mère terrifiante, mais vraiment terrifiante, sèche comme un coup de trique et qui règne sur la carrière de sa fille. Et elle qui déploie finalement des trésors de volonté pour résister à tout ce qui lui arrive. Donc elle a plutôt un beau portrait dans le film, et peut-être que le portrait est exagérément positif aujourd'hui, et il l'a été dans l'autre sens il y a une trentaine d'années.
Elle est un petit peu réhabilitée. Alors il y a un phénomène qui est pointé dans le récit, mais qui n'apparaît pas très fort et qui est quand même intéressant, c'est que Tonya Harding, elle est championne des États-Unis en 1991 avec son fameux triple axel. En 1992, elle est derrière, elle est quatrième à Albertville, aux Jeux Olympiques. Et puis tout à coup, il y a de nouveau des Jeux Olympiques en 94. Comment ça se fait ?
C'est la première fois dans l'histoire. Il y aura donc quatre éditions des Jeux Olympiques d'hiver entre 1988 et 1998. Et
la raison en 10 ans, alors que normalement...
En 10 ans, mais normalement, comme c'est tous les 4 ans, c'est pas possible. Et la raison est que le CIO, qui était à l'époque présidé par Juan Antonio Samaranch, avait lancé un programme qu'on appelait The Olympic Program, ou plus exactement, on utilisait les initiales TOP, qui était un programme de sponsoring. Donc, des grosses sociétés, généralement américaines, avaient investi un maximum d'argent pour supporter les organisations du Olympique. Et il leur fallait plus de visibilité. Une fois tous les 4 ans, ça ne leur suffisait pas. Donc, on a décalé les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Ce qui fait qu'en 1992, il y avait les Jeux de Barcelone, Jeux d'été, et d'Albertville, Jeux d'hiver. Mais en 1994, on a fait ce décalage. Et donc, il y a eu une édition des Jeux d'hiver qui s'est surajoutée. Puis après, il y a eu Nagano en 98 et ainsi de suite.
Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est une année un peu mythique. En fait, c'est une année qui a été très fort poussée aussi au niveau de la publicité.
Mais c'était une année mythique tout de même, parce qu'on a là quatre trajectoires tout à fait incroyables. Bon, on a parlé de Tonya Harding, on a un petit peu parlé de Nancy Kerrigan aussi, mais il y a l'histoire de Oksana Bayul et l'histoire de Surya Bonaly.
Oui, qui est un des autres personnages de ces Jeux Olympiques de Lillehammer.
Oui, et on va vous raconter cette histoire du saut vertigineux et interdit exécuté sur la glace des Jeux Olympiques de Nagano en 1998. On est donc 4 ans après ceux de Lillehammer. Voici l'histoire de Surya Bonaly, patineuse noire, devenue icône rebelle du sport français.
Nous sommes le 20 février 1998 sur la patinoire de Nagano. Combinaison turquoise ornée de sequins dorés et lames affûtées, Surya Bonaly jette un dernier regard à sa mère, la fidèle Suzanne, et ses longs cheveux gris indéfectiblement présentes depuis toutes ces années dans le box des entraîneurs, en bord de piste. Une voix en japonais appelle à travers les haut-parleurs. Et Surya s'avance, elle se met en place, les bras croisés devant la poitrine. Son corps lui fait mal. Sa jambe a lâché des douleurs à l'aine. Elle ne peut pas prendre d'antidouleur, alors elle espère que l'adrénaline la fera tenir. Elle a 24 ans et ce sera sa dernière compétition. Pour une fois, elle veut remporter cette médaille d'or qui manque à son palmarès. Alors que les premières notes des 4 saisons de Vivaldi résonnent sur la glace, elle sait que c'est sa dernière chance. Elle est championne d'Europe, mais au niveau mondial, par 3 fois, elle n'a remporté que l'argent. Après 30 secondes de programme seulement, elle chute. Alors qu'elle pousse un cri, la carrière de Surya Bonaly défile. C'est l'histoire d'un mental d'acier et d'un corps au potentiel incroyable. L'histoire d'une petite fille adoptée dans les années 70 par un couple de Français. Suzanne et Georges Bonaly éduquent leur fille dans un esprit de rigueur et de sobriété dans une ancienne bergerie retapée dans l'arrière-pays niçois. Panneaux solaires sur le toit et vieux vannes, fascinés par l'Inde, ils donnent un prénom Indy à leur fille. Suzanne est professeure d'éducation physique et suit la carrière de Surya de très très près, quitte à être parfois dans le chemin des entraîneurs. Sur des patins, Surya, dès petite, peut tout faire. Elle n'est jamais lasse de travail et d'effort. Rapidement, elle est recrutée pour patiner en équipe de France. Sa force, ce sont les sauts. Elle monte plus haut, elle tourne plus vite. À 16 ans, elle est la première à pouvoir exécuter une quadruple boucle piquée. Mais dans le patinage artistique, ses muscles et sa puissance détonnent. La Fédération internationale lui fait comprendre qu'il faut plus de grâce et moins de sauts. Alors elle s'applique. Nous sommes en 1994 au championnat du monde de Tokyo. Musique classique et combinaison rose, elle tente de jouer le jeu. Mais rien n'y fait, médaillée d'argent, en larmes, elle refuse de monter sur le podium.
Pendant ces championnats du monde 1994, nous avons découvert les deux côtés d'une médaille. Le revers tout d'abord, lorsque la Française Souria Bonali refuse le protocole et adopte un comportement inqualifiable. L'amertume et la déception n'expliquent pas une telle attitude, qui de plus est vexante pour ses concurrentes directes. Bonali a très bien patiné, mais la Japonaise Yuka Sato a fait mieux. Plus artistique, plus gracieuse, elle a enchaîné les coups de patin avec rapidité et virtuosité. Une victoire qui ne se discute pas.
Le style Bonali ne paye pas. Il n'entre pas dans les canons du patinage artistique. À l'époque, certains se demandent parmi les patineurs s'il n'y a pas une pointe de racisme. Mais sur la glace des Jeux Olympiques de Nagano 4 ans plus tard, le souvenir est déjà loin. Sa jambe lui fait mal, elle glisse bien, elle parvient à sauter en prenant appui sur un seul patin, mais de toute façon, elle est déjà tombée en début de programme. Ces dernières années, il n'y a pas eu que des désillusions. Quand il n'y a pas de compétition, elle est une superstar. Avec Philippe Candeloro, l'autre patineur français, ils ont été recrutés par un producteur américain pour faire des galas partout dans le monde. Avec lui, ils partent pour les tournées Champions on Ice.
Tous les jours, toute ma vie est un rêve. Je veux dire,
C'est là qu'elle a mis au point sa botte secrète, le Bonali, un salto sur la glace. En compétition, c'est interdit, trop dangereux. Mais en gala, certains le font, en se réceptionnant sur deux pieds. Or, en patinage artistique, il faut atterrir sur un seul pied pour valider un saut. Alors Souria a trouvé une technique. Quand son corps est tendu, à la verticale, la tête en bas, elle décale ses jambes, passe par le grand écart et se réceptionne sur une lame. Pour son dernier programme à Nagano, sur la glace, ses sauts ne décollent pas. Son visage est fermé, rien ne laisse présager ce qu'il va se passer. Pourtant, après 3 minutes et 30 secondes, elle s'élance en arrière.
Atto! Bakushugaeri! Bakuflip o misemashita! Kore wa amateur no kyōgikai de wa mitomarete imasen.
Un salto, et même un Bonali. C'est interdit, elle n'avait pas le droit, mais peu importe. Puisque les juges n'ont jamais trop voulu qu'elle saute, ce jour-là, elle s'envole, la tête en bas. Le public est debout, en liesse. Souria Bonali se détend, un léger sourire reste sur son visage jusqu'à la fin du programme. Elle termine finalement à la 10e place. À ce jour, aucun homme ou femme autre qu'elle n'a pu exécuter le Bonali, devenu la figure rebelle du patinage artistique.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N., Hélène Maquet.
La carrière de Souria Bonali et ce fameux saut, ce fameux salto, le Bonali, mis en son par Jérémy Bocquet, Gilles Goudguebure, le Bonali, mythe du sport.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est un saut, on dit interdit, c'est-à-dire qu'il n'est pas coté, il ne rapporte rien. Et comme tout se fait dans l'optique de classement et de points, c'est parfaitement gratuit. Mais c'est ce qui le rend aussi si magnifique. Alors donc, effectivement, on peut le voir très facilement sur Internet. C'est un saut où elle s'envole et puis elle déploie ses patins
jambes,
dans l'air et elle atterrit sur un patin. C'est magnifique.
Vous avez rencontré Souria Bonali. C'était quel genre de personne?
Moi, j'ai rencontré très jeune. Hein, donc, elle était une adolescente qui avait été très peu en contact d'autres enfants. De ce fait-là, elle était assez timide, assez secrète, elle s'exprimait avec des difficultés et c'était sa mère qui parlait à sa place. Très clairement, je me rappelle de cette interview, c'était au Salon des Sports, ça m'avait beaucoup marqué parce que je faisais une enquête sur l'équilibre dans le sport et donc j'avais interviewé un tas d'athlètes qui me parlaient de leur équilibre et pour elle, c'était d'ailleurs intéressant parce qu'elle disait que quand elle faisait ses pirouettes, là, les pirouettes très rapides, eh bien si elle était fatiguée, la pirouette dérivait légèrement et que pour faire ses pirouettes, elle avait besoin de prendre un repère dans la salle, une poutre du plafond qui lui permettait de se fixer l'esprit sur un endroit. Parce que quand on les voit tourner à cette vitesse-là, on se demande mais comment ils font. Et donc, c'était assez intéressant. Mais vraiment, il fallait tirer les mots les uns après les autres. Et souvent, sa mère intervenait, alors que je ne crois pas qu'elle faisait du patin, pour m'expliquer comment ça se passait. Et parfois même pour reformuler mes questions en disant « Mais vous n'auriez pas de lui poser que ça comme question, plutôt celle-ci. »
Mais là, elle a essayé de se libérer quelque part, de se lâcher.
Après
de
sa carrière.
Oui, non, mais à travers ce saut.
Ah oui.
De faire quelque chose qu'elle avait vraiment envie de faire, elle.
Il faudrait voir quel est le rôle exact des parents, parce que, en fait, c'était la mère qui fixait les difficultés, ce qui posait beaucoup de problèmes avec les entraîneurs. Elle a eu comme entraîneur Didier Gaillaguet, qui a été plus tard président de la Fédération française, et il y avait quand même pas mal de conflits, parce que c'est la mère qui l'a poussée à faire des sauts toujours de plus en plus difficiles.
Parce que c'est ça aussi, Souria Bonali, c'est un rapport à sa mère qui est quand même très particulier. On a parlé de la famille de Tonya Harding, la famille de Souria Bonali, c'est quand même aussi quelque chose.
Oui, c'est donc c'est une famille de issus du flower power, de
tous ces...
C'est des hippies, en fait. Ils voyagent beaucoup en Inde. Ils ont appelé leur fils Surya, qui veut dire soleil, en langue hindi. Ils habitent une bergerie, effectivement, sur les hauteurs de Nice, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau, où ils élèvent 40 chèvres.
Elle est scolarisée à la maison?
Elle est scolarisée par... c'est sa mère qui lui fait son éducation. Et donc, elle voit très peu d'enfants et elle les voit grâce au sport. Et alors, elle est brillantissime en patinage, bon, ça, on s'en doute un peu, mais aussi en tumbling. Donc, le tumbling, ce sont ces exercices de gymnastique où on enchaîne des saltos. Et elle a des titres, je crois, au niveau national en tumbling également. Donc, elle était extraordinairement douée pour le sport de façon générale. Elle a percé dans le patinage, mais elle aurait pu certainement le faire ailleurs.
Et il y a aussi, dans l'histoire de Surya Bonaly, une sorte de roman familial qui a été vendu à la presse. Exactement comme dans Tonya Harding, Nancy Kerrigan, on sait qu'il y a un récit médiatique qui raconte cette histoire-là. Surya Bonaly, il y a aussi un récit médiatique qui, là, a été construit par son entourage lui-même.
Et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans plein de sites. On présente Surya Bonaly comme la petite réunionnaise. Et donc, l'histoire voudrait qu'elle a été trouvée sur une plage, un bébé abandonné, recueilli par les institutions et finalement confié à l'adoption à un couple niçois. En fait, cette histoire est totalement inventée. Elle est née à Nice, elle a été adoptée tout à fait logiquement, et elle a été inventée, on ne sait même par qui, par ce fameux entraîneur Didier Gayaguet, qui trouvait que ça lui donnait une aura un peu particulière qui permettrait peut-être d'être mieux jugée par le jury des compétitions. Et de fait, c'est vrai. Là, sur le coup, c'est vrai, elle a été injustement cotée à plusieurs reprises. Il est probable qu'elle aurait mérité au moins un titre mondial. Mais c'est une période assez noire de l'histoire du patinage aussi. Il y avait quand même beaucoup de corruption, beaucoup de malversations. Et le Didier Gayaguet en question sera impliqué dans une affaire qui a éclaté en 2002 parce que lui-même faisait, à ce moment-là, il était président de la fédération, mais faisait pression sur les jurés. Donc, il n'y avait pas que la performance sur la glace qui comptait. Manifestement, il y avait un tas d'autres choses aussi.
Oui, et je me souviens d'avoir entendu des archives de Philippe Candeloro en préparant cette émission qui dit... À un moment donné, Surya Bonaly, elle était noire. Moi, je venais d'un milieu populaire. Et dans le patinage artistique, on sentait qu'on ne correspondait pas aux codes et aux normes et à ce qu'on attendait de nous.
Je crois que c'est vrai. En fait, le patinage a... C'est un des sports, quand c'est difficilement classé, vous savez, c'est le sport que tout le monde regarde à la télé. Donc les fans de sport habituels, mais aussi tous ceux qui s'y intéressent pas d'ordinaire. Et donc c'est un spectacle autant qu'un sport. Et dans ce spectacle, c'est vrai qu'on avait privilégié plutôt les modèles, les petites filles parfaites, quoi. Et que, enfin, en tout cas pour Surya Bonaly, elle correspondait pas à ce canon-là.
Alors justement, sur le patinage comme sport, et spectacle d'ailleurs. Vous avez parlé de ce film sur Tonya Harding, il y a un épisode de série de Netflix
sur
Surya Bonaly. Il y a des podcasts, il y a un regain d'intérêt pour le patinage artistique. Il en est où ce sport?
Mais à l'époque, en tout cas, il passionnait les foules. Moi, aujourd'hui, et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que je pense qu'à l'époque, il était plutôt plus perverti qu'aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, on avait des trajectoires finalement très tristes, hein, parce que bon, Surya Bonaly, il semble qu'elle s'en soit bien sortie, mais Oksana Bayoul, elle est passée par des années vraiment très difficiles. Tonya Harding aussi, on l'a dit. Donc, c'était quand même des vies qui ont été... Des petites filles qui ont été maltraitées, on peut le dire.
Oui,
donc,
du surentraînement,
bien sûr,
harcèlement, une relation de domination parfois,
oui, il y a eu,
de dépendance avec les entraîneurs.
Si on sort de ces quatre-là, il y a l'affaire de Sarah Abitbol qui a été violée par son entraîneur. Donc c'était quand même des vies très moches quand on y réfléchit. Très moche et passionnante. Il faut reconnaître les choses. Il y a une sorte de voyeurisme dans l'histoire du sport qui fait qu'on s'intéresse aux personnages les plus sombres parfois. Voyez l'importance qu'on a accordée à des athlètes comme Lance Armstrong ou comme Dennis Rodman en basket. Donc à chaque fois, ceux qui sortent du cadre, eh ben, ils passionnent, quoi.
Oui,
ils fascinent.
On aime bien un peu les bad boys, quoi, ou les rebelles dans les médias aussi.
Mais bien sûr, Eric Cantona disait qu'il n'a jamais été aussi populaire que quand il s'est battu avec un supporter ou qu'il a arraché son maillot, qu'il l'a jeté par terre. Voilà.
Ce qui est particulier, c'est que effectivement, dans le patinage artistique, il y a ça se confronte un peu à l'image du patinage artistique qui est ce sport d'enfant parfait. Et quelque part, effectivement, c'est un peu les princesses rebelles dont on se souvient.
Voilà, et c'est peut-être pour ça que le patinage des années 90 a été à ce point passionnant, parce qu'il y avait toutes ces histoires à la clé.
Ça vaut encore la peine de regarder le patinage aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui,
il y a quoi ?
C'est vrai, on est moins passionné parce que peut-être que les histoires sont plus lisses. Ou alors, elles ne le sont pas forcément, mais elles sont rendues plus lisses par les communicants. Les choses sont quand même changées aussi en 30 ans, dans la mesure où maintenant, tout ce qui concerne la vie des champions est entre les mains d'une poignée de spécialistes et ne filtre que ce qui les arrange au plan des accords commerciaux, etc. Il y a plus beaucoup de spontanéité. Quand on voit, je ne sais pas, même les comptes Twitter des grands champions, mais sont pas gérés par les champions eux-mêmes. Hein. Ils ont un responsable Twitter, un responsable réseau, un responsable publicité, etc. Et donc, on ne connaît rien, finalement, de la vie de ces champions, et ça dessert le sport en général.
Les journalistes n'ont plus accès aux champions et aux entourages, parce que c'est ça aussi l'histoire de Tony Harding. On voit son ancien garde du corps qui donne une interview fleuve comme ça à la télé. Ça, c'est des choses qui n'arrivent plus.
Peut-être que ça arrive, mais alors avec un décalage dans le temps. Mais c'est vrai que le journalisme a tellement changé. Je me rappelle d'une interview de Raymond Pointu, donc un journaliste qui a couvert tous les Jeux et qui disait qu'il était une époque où on se baladait dans le stade lors des Jeux Olympiques et puis on voyait que telle performance avait été faite en saut en hauteur. Et ben on se rendait au sautoir et puis ainsi de suite. Donc ils étaient vraiment libres de récolter l'information tout à fait naturellement. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Tout est absolument cadré, il y a des conférences de presse, on ne peut pas poser certaines questions. Enfin, le travail de terrain est beaucoup moins intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque.
C'est peut-être pour ça qu'on en vient d'ailleurs à raconter des vieilles histoires. Allez, merci beaucoup Gilles Goodgubbure d'avoir été avec nous dans cet épisode de l'Histoire continue. On a donc re-raconté l'histoire de ces patineuses des Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994. Merci Gilles.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.